Imaginons un peu la situation. On a un investisseur providentiel, un ange gardien de la finance, qui injecte, je sais pas, des millions d'euros pour sauver une start-up de la faillite. Il offre un accompagnement tous les jours, il ouvre son carnet d'adresses personnelles, bref, il donne tout.
Ouais, le scénario de rêve pour n'importe quel entrepreneur, en fait.
Exactement. Et en retour, le fondateur de cette boîte crache littéralement sur le chèque, en public, et il se met à dénigrer cet investisseur devant tous ses concurrents.
Ah ouais, là on n'est plus du tout dans le manque de politesse. C'est le suicide professionnel et social absolu.
C'est une trahison pure et simple. Et dans n'importe quelle culture aujourd'hui, ce serait déjà intolérable, mais dans le monde antique, ce niveau d'ingratitude s'était vu comme le crime social ultime. En fait, c'était une destruction publique de la réputation du bienfaiteur.
Tout à fait, c'était impardonnable.
Et c'est justement avec cette intensité dramatique, très concrète, que s'ouvre notre exploration d'aujourd'hui. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va plonger dans des notes d'études vraiment fascinantes rédigées par le docteur David A. de Silva.
Des notes qui sont, pour le coup, hyper révélatrices.
Oui, parce qu'elles décortiquent un passage célèbre de l'Antiquité, mais qui est hyper souvent mal compris. C'est l'Épître aux Hébreux, et plus spécifiquement ce qui se passe entre la fin du chapitre 5 et la fin du chapitre 6.
Et je tiens à préciser tout de suite, l'objectif de notre discussion d'aujourd'hui, c'est pas du tout de se perdre dans des débats théologiques abstraits ou des querelles de clochers, hein.
Non, pas du tout.
Ce que les recherches de De Silva mettent en lumière, c'est que ce texte est en réalité une vraie masterclass de psychologie humaine et de persuasion antique. C'est brillant.
C'est ça qui est fou.
Mais pour le comprendre, il faut impérativement enlever nos lunettes modernes. Il faut se plonger dans les dynamiques sociales qui étaient extrêmement rigides à l'époque gréco-romaine. On a affaire à un texte qui manipule les émotions de son public avec une précision chirurgicale.
Et le but, c'est d'obtenir une réaction vitale. Bon, ce qui saute aux yeux quand on lit les premières pages de ces sources, c'est la structure même du discours. Enfin, l'auteur de ce texte est en train de développer un argumentaire super pointu sur une figure historique obscure, un certain Melchizedek.
Ouais, un passage très technique.
Voilà, c'est dense, c'est hyper logique, et d'un coup, mais vraiment sans prévenir, il s'arrête net.
Il coupe tout.
Il abandonne son sujet principal, il se tourne vers son auditoire, façon de parler, et il se met à les réprimander d'une manière quasi brutale. Enfin, c'est une digression totale, tu vois.
C'est une digression, oui, mais c'est surtout une manœuvre stratégique vitale. En fait, l'auteur se rend compte qu'il a face à lui un public qui a complètement perdu son acuité. Ils sont devenus intellectuellement et spirituellement amorphes, quoi.
Ils dorment à moitié, en gros.
Exactement. Et continuer à leur donner un enseignement complexe à ce stade, ce serait juste un énorme gaspillage d'énergie. Il faut d'abord qu'ils provoquent un électrochoc pour les réveiller.
Bon, décortiquons un peu cela, parce que la métaphore qu'il choisit pour cet électrochoc, elle est particulièrement condescendante, on va dire.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Ils leur reprochent d'avoir régressé au stade où ils ont besoin de lait. Donc les rudiments les plus basiques, alors qu'avec tout le temps qui a passé, ils devraient déjà être capables d'assimiler ce qu'il appelle de la nourriture solide.
C'est ça.
Il va même plus loin, il dit qu'ils devraient déjà être des enseignants pour les autres. Pour transposer ça aujourd'hui, c'est comme si un brillant professeur d'université arrêtait son cours magistral en master de physique quantique. Il regarde ses étudiants et il leur lâche un truc du genre « Vu votre incapacité à réfléchir, on suspend le cours et on retourne en maternelle pour réapprendre l'alphabet. »
Ah bah, l'analogie est parfaite. Et cette violence verbale, il faut bien comprendre qu'elle n'a rien d'accidentel. Ce qui ressort des travaux de Silva, c'est que l'auteur emprunte ici une technique super connue des philosophes gréco-romains de l'époque.
Ah ouais, j'ignore. Genre, c'était courant.
Oui, tout à fait. Les sources dressent un parallèle fascinant avec le philosophe stoïcien Épictète, par exemple. Dans ces écoles de philosophie, l'enseignement, c'était pas juste « je te transfère de l'information ». C'était une véritable formation morale.
D'accord.
Et Épictète utilisait tout le temps ce genre d'image. Il comparait ses élèves adultes à des enfants gâtés. Il opposait constamment l'infantilisme, le fait d'absorber passivement des trucs et de réagir sous le coup de l'émotion, à l'âge adulte, qui demande de prendre ses responsabilités.
Donc le but de parler de nourrisson et de lait, c'était vraiment d'humilier le public.
De faire naître un sentiment de honte, oui, absolument.
Mais attends, la honte, c'est hyper compliqué comme émotion. Surtout aujourd'hui, on a plutôt tendance à la fuir, ou à dire que c'est toxique, que c'est destructeur.
Eh bien, c'est là qu'est toute la différence avec l'Antiquité, en fait. Dans ce contexte philosophique précis, la honte était perçue comme un levier pédagogique hyper puissant et même positif si c'était bien dosé.
Un mal pour un bien, en quelque sorte.
Voilà. Le but d'Épictète, comme celui de notre auteur biblique, c'est pas du tout de détruire l'estime de soi des gens. C'est de les piquer au vif pour provoquer un sursaut d'orgueil, tu vois.
Ouais, je vois bien.
La fameuse nourriture solide du texte, c'est pas juste accumuler des connaissances théoriques compliquées. Le texte a défini comme la capacité à distinguer ce qui est noble de ce qui est vil. Et ça, ça s'acquiert par un entraînement constant.
Donc, c'est l'application morale pratique du savoir, en fait.
C'est ça. En gros, l'auteur leur crie « Vous avez les outils, alors arrêtez de vous comporter comme des assistés et mettez-vous au boulot ».
D'accord, mais il y a quand même un risque énorme avec ce genre de confrontation frontale. Qu'est-ce qui se passe si le public refuse de grandir? Si par fatigue ou juste par flemme, ils disent « Bon ben, on reste laid et on abandonne tout ».
Et c'est là que le texte devient glaçant.
Mais vraiment, hein, c'est à ce moment-là que ça bascule dans un des avertissements les plus sombres de toute la littérature antique. Il est écrit qu'il est impossible de ramener à la repentance ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté au don céleste et qui finissent par chuter et abandonner.
Ouais, c'est un passage très rude.
Mais du coup, quand on lit ça aujourd'hui, on a tout de suite l'impression qu'on est en plein débat théologique sur est-ce qu'on peut perdre son salut éternel ou pas. C'est vraiment de ça qu'il parle.
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que c'est exactement le piège dans lequel tombe la plupart des lecteurs modernes. On lit ce texte avec nos lunettes, à travers des siècles de débats dogmatiques occidentaux.
Ouais, c'est inévitable.
Sauf que l'auteur du 1er siècle ne pensait pas du tout selon ces catégories-là. Les recherches de Silva soulignent qu'il raisonnait à partir du tissu social fondamental du bassin méditerranéen de l'époque.
C'est-à-dire ?
Le système de mécénat ? La relation très codifiée entre un patron et son client.
Ah, le mécénat. C'est vrai que c'est un concept sociologique clé pour cette période. Comment ça fonctionnait au quotidien, concrètement?
En fait, c'était la colle qui tenait toute la société gréco-romaine. À l'époque, il n'y a pas d'état-providence, il n'y a pas d'aide sociale. Si tu voulais un boulot, être défendu en justice ou des fois juste manger, il fallait absolument te placer sous la protection d'un homme riche et puissant, le patron.
Donc une relation très déséquilibrée, mais nécessaire.
Exactement. Ce patron t'offrait des ressources financières, une protection juridique, des opportunités professionnelles. Et en retour, toi, en tant que client, ben, tu le remboursais pas avec de l'argent.
Parce que t'en avais pas, par définition.
C'est ça. Tu le remboursais avec ta loyauté, ton obéissance, et surtout, et ça c'est crucial, en augmentant publiquement son honneur. Par exemple, tous les matins, les clients devaient aller saluer leur patron sur la place publique pour montrer à quel point il était grand et généreux.
Ah oui, c'était hyper théâtral.
Très. C'était un contrat social de réciprocité extrêmement strict. Un don appelle obligatoirement un contre-don.
Ok, donc si on applique cette grille de lecture gréco-romaine au texte, Dieu est présenté comme le patron suprême, le bienfaiteur ultime.
Tu as tout compris. Et le texte insiste lourdement sur la quantité et la qualité des dons que ce public a reçus de leur patron divin.
Ils ont été illuminés, ils ont eu le don céleste.
Voilà, l'esprit, les miracles, Dieu a accumulé faveur sur faveur. Et dans la mentalité de l'époque, se détourner d'un tel bienfaiteur après avoir accepté tout ça, c'est pas juste « Oups, j'ai changé d'avis sur la religion ». C'est une abomination sociale.
Un scandale public, quoi.
Totalement.
Le docteur de Silva cite d'ailleurs Dion Chrysostome à ce sujet, un grand philosophe et orateur. Et ses mots montrent bien le poids de cette trahison.
Oui, Dion Chrysostome explique très bien que l'ingratitude n'était pas forcément punie par les tribunaux officiels, tu n'allais pas en prison pour ça, mais elle était impitoyablement jugée par le tribunal de l'opinion publique.
Et ça, c'était bien pire, j'imagine.
Bien pire ? Un client qui trahit un bienfaiteur généreux, il s'attire la haine de toute la société. Plus personne ne lui fait confiance, il devient un paria. Et l'auteur biblique utilise cette logique-là. Dieu a offert un don infini, au prix de grandes souffrances. Le rejeter, c'est insulter le bienfaiteur si profondément qu'une seconde chance devient inconcevable dans ce système d'honneur.
Il y a d'ailleurs une phrase terrible dans le passage pour décrire ça. Le texte dit qu'ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie publique.
Voilà, on y est.
Si on garde en tête cette idée d'opinion publique, retourner à leur ancienne vie païenne, c'est en gros dire à leurs voisins « Ah, vous aviez raison de vous moquer de nous. Ce Dieu-là vaut rien, en fait. »
C'est ça. C'est une déclaration publique qui détruit la réputation de Dieu dans la communauté. C'est faire honte aux donateurs.
C'est fascinant et terrifiant à la fois.
Et pour vraiment ancrer cette idée que le retour sur investissement est obligatoire, l'auteur va utiliser une image que n'importe quel habitant de l'époque comprenait de manière très viscérale, du paysan jusqu'au philosophe. C'est le travail de la terre, l'agriculture.
Ah, la fameuse analogie de la terre. Le texte dit que quand une terre boit la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une végétation utile, elle est bénie. Mais si elle produit que des épines et des chardons, elle est rejetée, elle est proche de la malédiction et elle finit brûlée.
Avec des échos très clairs à la malédiction de la Genèse et au Deutéronome, ouais.
Bien sûr. Et pour moderniser un peu cette idée du retour attendu, tu sais à quoi ça me fait penser, hein?
À quoi?
Un venture capitaliste. Un investisseur en capital risque. Genre un mec qui met des fonds colossaux qui offre un mentorat de dingue à une start-up.
On revient à ton intro, hein?
Exactement. Et si tes années plus tard, les créateurs ont tout claqué dans des futilités, les fameuses épines, et qu'ils ont sorti aucun produit, bah l'investisseur va pas juste dire « tant pis, on ferme le dossier ». Il va ressentir une vraie trahison morale. L'investissement de départ exigeait un résultat.
Cette transposition est parfaite pour comprendre la mentalité antique. De Silva utilise d'ailleurs les écrits de Sénèque pour enrichir ça. Dans son traité des bienfaits, Sénèque file la même métaphore agricole.
Ah oui, qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit qu'un bon agriculteur, il jette pas ses graines au hasard dans le sable. Il choisit un bon terrain et surtout il insiste sur le fait qu'il suffit pas de semer. Il faut travailler constamment, désherber, entretenir pour espérer une récolte.
Donc l'investissement initial, c'est que le début. Dieu a pas juste semé un truc en passant et espéré que ça pousse.
Non, le texte dit bien que Dieu a fait pleuvoir fréquemment. L'investissement a été répété. Ça rappelle beaucoup le fameux champ de la vigne dans le livre d'Ésaïe, tu sais.
Rappelle-moi ce que c'est.
C'est ce passage où Dieu plante une vigne sur un coteau super fertile. Il enlève les pierres, il construit une tour, il fait tout ce qui est possible. Logiquement, il s'attend à de bons raisins qui symbolisent la justice.
Et j'imagine que la vigne donne des mauvais raisins.
Évidemment. Et la réaction dans l'Ésaïe, c'est la destruction totale de la vigne. Donc imagine l'impact d'une image pareille sur l'auditoire de l'Épître. Se faire comparer à une terre stérile qui va être maudite et brûlée. Ça devait provoquer une terreur absolue dans l'assemblée.
Mais grave, hein? Et c'est là que j'ai un vrai problème psychologique avec ce texte.
Comment ça?
Si un orateur utilise une image aussi apocalyptique, le risque principal, c'est que son public soit complètement paralysé, non? Si on me dit que je suis une terre maudite sur le point de brûler, je ressens juste du désespoir.
C'est sûr.
Et le désespoir, c'est pas vraiment un bon moteur pour l'action à long terme. Face à une peur écrasante, la plupart des gens, en fait, ils abandonnent, ils fuient. Comment l'auteur fait-il pour pas perdre son public dans la panique totale?
Ah, et c'est là qu'on voit toute la maîtrise technique de ce mec. Immédiatement après cette menace de feu, boum, il fait un virage à 180 degrés.
Sans transition.
Presque. Le ton change radicalement. D'un coup, il s'adresse à eux en les appelant bien-aimés et il leur sort « Nous sommes persuadés de choses meilleures à votre égard, des choses qui accompagnent le salut. »
C'est le jour et la nuit, hein.
Complètement. Ça pourrait ressembler à de la bipolarité littéraire, mais en réalité, c'est une manœuvre rhétorique, classique, hyper calculée.
Attends, donc c'est calculé, c'est une technique officielle, ce changement d'attitude?
Mais oui, tout à fait. Les notes du docteur De Silva citent le Rhetorica ad Erinium. C'est un manuel romain de prise de parole en public très connu du 1er siècle avant notre ère. C'était la Bible des orateurs et des politiciens romains.
Et il dit quoi, ce manuel?
Il recommande explicitement cette stratégie. Et quand tu as dû utiliser des mots très durs qui suscitent la peur ou la colère chez ton public, tu dois tout de suite faire suivre ça par de louanges. Le but, c'est d'apaiser l'auditoire et de transformer cette terreur paralysante en un sentiment d'urgence constructif.
Ah ouais, la technique du chaud et du froid, le bâton et la carotte, quoi.
Voilà. En faisant ça, l'auteur les rassure. Il leur dit en gros, le jugement n'est pas encore tombé, il est encore temps d'agir. Et il ajoute un truc crucial. Il dit que Dieu n'est pas injuste au point d'oublier leur travail.
Et ce fameux travail, ça nous ramène à la métaphore de l'agriculture. C'est quoi exactement ce fruit, cette récolte que Dieu attend en retour de son investissement?
Alors le fruit dans ce contexte, c'est l'amour et le service actif envers les saints, ce qui veut dire les autres membres de leur communauté.
D'accord.
Et c'est une conception de la réciprocité qui est fascinante. Dieu, en tant que patron suprême, il a besoin de rien matériellement, on est d'accord en ça?
Oui, on peut pas lui faire un chèque.
Donc la réciprocité se fait de manière horizontale. Le client honore le grand bienfaiteur divin en prenant soin des autres clients, surtout les plus vulnérables du groupe.
C'est d'une pertinence incroyable même aujourd'hui. En fait, c'est un appel à sortir de la passivité intellectuelle. C'est tellement facile de lire des bouquins complexes, d'écouter des analyses, d'accumuler de la connaissance.
De consommer du lait, en fait.
Exactement.
Sans que ça ne se traduise jamais par une action concrète pour aider les autres.
Et les sources donnent une illustration contemporaine hyper poignante de ça. Elles parlent du soutien aux chrétiens persécutés dans le monde d'aujourd'hui.
Ah, intéressant. Dans pas mal de régions du monde, revendiquer cette identité, ça implique une marginalisation sociale totale, des pertes d'emploi, des violences physiques.
Oui, on le voit souvent aux infos.
Eh bien, soutenir ces personnes, que ce soit par des dons, une aide matérielle ou un plaidoyer, c'est précisément ce que le texte antique appelle « produire le bon fruit ». C'est un investissement actif dans la survie des autres. La récolte attendue, c'est ce réseau d'entraide.
Bon, mettons que l'auditoire du 1er siècle reçoive le message 5 sur 5. Ils acceptent de se secouer, d'arrêter d'être paresseux, et ils continuent de soutenir leur groupe malgré la pression sociale, les persécutions, tout ça.
Ce qui n'est pas facile.
Ce qui est super dur. Du coup, qu'est-ce qui leur garantit que tous ces sacrifices servent à quelque chose? Si la société les déteste et que leur vie devient un enfer, sur quoi ils peuvent s'appuyer?
C'est la grande question. Et c'est ce qui amène la toute dernière partie de cette digression.
Luther parle du patriarche Abraham, c'est ça? Il dit qu'il a été patient pour obtenir sa promesse. Mais là, il introduit un concept théologique. Bah, c'est bizarre. Le serment de Dieu.
Bizarre, oui, c'est le mot.
L'auteur dit que Dieu a fait une promesse, mais qu'en plus, il a juré par lui-même pour garantir cette promesse. Et pour moi, c'est un paradoxe logique énorme.
Pourquoi tu dis ça?
Bah, si on part du principe que Dieu est parfait, omniscient, incapable de mentir, sa simple parole devrait suffire, non? Pourquoi un être infaillible aurait besoin de se soumettre à une coutume humaine comme le serment? C'est complètement redondant.
Alors rassure-toi, tu n'es pas le seul à t'être posé la question. L'analyse de De Silva nous montre que Philon d'Alexandrie, qui était un très grand philosophe juif de la même époque, s'était déjà penché sur cette énigme.
Et l'en dit quoi, Philon?
Il dit que dans le monde humain, on a besoin des serments, parce qu'on est menteur par nature, on est faillible, on jure devant un juge pour prouver notre bonne foi. Mais Dieu, par définition, n'a pas besoin de prouver sa bonne foi.
Alors à quoi ça sert qu'il jure?
Philon explique, et l'auteur de l'épître va exactement dans le même sens, que ce serment, il n'est pas là pour contraindre Dieu. Il est là pour rassurer les humains. C'est un acte de pure condescendance bienveillante.
De condescendance, c'est-à-dire qu'il s'abaisse à notre niveau.
Quand la société se retourne contre toi, la première chose qu'il lâche, c'est la confiance. On se met à douter de tout.
C'est humain, ouais.
Et donc, pour pallier cette faiblesse, Dieu s'abaisse à utiliser notre propre langage juridique. Il ajoute un serment à sa promesse. C'est ce que le texte appelle « deux choses immuables ». Le but, c'est d'offrir une consolation, un truc solide à des gens qui sont terrifiés par leur environnement.
D'accord, je comprends mieux. Et cette idée de stabilité absolue, ça nous mène à la toute dernière image du passage. Une image hyper poétique d'ailleurs. Le texte parle de cette double garantie comme d'une ancre pour l'âme. Une ancre qui traverse le voile du temple pour se fixer directement dans la réalité divine.
Et cette image de l'ancre, elle n'est pas balancée au hasard. On parle à une communauté qui a l'impression de faire naufrage sur le plan social.
Le bateau coule, quoi.
C'est ça. L'auteur leur dit « Votre point d'ancrage ne doit pas être dans l'approbation de vos voisins ou dans la société gréco-romaine. Tout ça, c'est temporaire, ça bouge. » Votre ancre, elle est fixée dans la réalité invisible, mais qui est éternelle.
C'est fort comme métaphore.
Très fort. D'ailleurs, c'est ici que le texte utilise un mot grec militaire super précis pour parler de Jésus, le prodromos. Ça veut dire l'éclaireur ou l'avant-garde.
Intermilitaire. Hein.
Oui. Dans l'Antiquité, c'était l'unité qui partait en avant pour sécuriser un passage à travers les lignes ennemies, avant que le gros des troupes n'arrive.
Ah, donc si l'éclaireur est déjà passé de l'autre côté du voile, ça garantit que les troupes qui suivent arriveront aussi à destination.
Exactement. Et c'est un défi frontal à la mentalité matérialiste. Pas seulement celle de leur époque, mais surtout la nôtre aujourd'hui. Hein.
Oui, on nous conditionne à chercher notre sécurité dans le visible. Le compte en banque, la maison, le statut.
C'est tout à fait ça. Alors que le texte demande de parier sa vie sur l'idée que le monde invisible est infiniment plus réel et stable que ce monde visible qui va finir par disparaître.
Waouh ! C'est un voyage intellectuel d'une richesse stupéfiante qu'on vient de faire grâce à ces sources. Si on résume, on est parti d'une réprimande hyper dure qui compare des adultes à des bébés qui n'arrivent pas à digérer la complexité.
Oui.
Ensuite, on a exploré les rouages impitoyables du mécénat antique, où l'ingratitude mène au rejet total et à cette image terrifiante de la terre brûlée. On a vu comment cet orateur génial manie la peur puis l'encouragement pour remettre son public au travail.
Et au service des autres, surtout.
Exact. Et enfin, on a découvert ce remède à l'instabilité militaire, s'ancré dans les promesses d'un dieu qui jure pour rassurer notre psychologie fragile, derrière un éclaireur déjà arrivé.
Et cette progression, elle permet à l'auteur de fermer sa parenthèse de manière magistrale. En reparlant de Jésus comme grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, il reconnecte direct avec son argumentation d'avant la digression.
La boucle est bouclée, quoi.
Voilà. Sauf que maintenant, le public ne dort plus du tout. Ils ont été secoués par la peur, rassurés par l'espoir, leur attention est à 100%. Il peut reprendre sa démonstration théologique sur des bases solides.
C'est brillant. Bon, pour clore cette exploration, j'aimerais partager une réflexion. Un truc à méditer tranquillement après notre échange pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
Tout au long de cette analyse, on a vu que l'auteur accuse son public de fuir la nourriture solide, de ne pas vouloir affronter des concepts difficiles qui bousculent leur certitude. Mais si on regarde bien la digression qu'on vient d'étudier, avec ses avertissements glaçants, ses métaphores agricoles impitoyables et ses mystères vertigineux sur les serments divins, et si cette complexité n'était pas un accident ? Et si la violence même de ce texte, c'était ça, la fameuse nourriture solide, en nous forçant à affronter ces concepts ardus, sans détourner les yeux, le texte devient lui-même l'exercice intellectuel prévu pour nous arracher à nos enfantages. Se débattre avec l'inconfort de ces idées, c'est peut-être ça finalement, grandir spirituellement.
C'est une perspective fascinante en effet. Ça donne le vertige.
C'est vertigineux, oui. Sur ce, un grand merci à celles et ceux qui ont partagé ce temps de réflexion exigeant avec nous aujourd'hui. Continuez à questionner, à creuser toujours un peu plus loin et à très bientôt pour de nouvelles découvertes au cœur du savoir.